Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de Par les temps qui courent. Cette semaine, toujours une heure de conversation tous les soirs avec les artistes. Ce soir, Milorao.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Milorao.
La première chose que je me suis dite en découvrant votre travail sur la grande scène du Théâtre des Amandiers à Nanterre, c'est que vous travaillez sur la relation. Les relations possibles et les relations impossibles. D'abord, cette relation à rejouer toujours, à retenter toujours, à risquer à chaque fois, celle qui peut exister entre le théâtre et les gens qui viennent en faire l'expérience. En second lieu, la relation entre les comédiens sur le plateau, et puis la relation entre l'écran, cette fenêtre, et la scène, cet endroit. Puis évidemment encore la relation entre un très vieux texte, l'Orestie d'Eschyle, et la guerre si contemporaine qui a détruit Mossoul pour partie, ainsi que des centaines de milliers de vies. Autre relation encore que vous testez, celle d'interprètes européens avec des interprètes irakiens. Donc sans être jamais certain que ça marche, vous semblez tester Milorao en laboratoire ouvert, ce qui tient dans les liens que nous tissons pour supporter la douleur, jamais complètement anesthésiés. Voilà un autre des grands thèmes de votre Orestie in Mossoul, avant une grande tournée qui passera par... Je prends ma feuille. Belgrade, Rome, Rotterdam, Zurich, Bruxelles, Utrecht, Lyon, Amsterdam, Munich, Zurich, Madrid, Lausanne. Vous êtes accueillis par le Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'au 14 septembre. Bonsoir à vous et bienvenue, Milorao.
Merci, bonsoir.
Il y a un théâtre aussi avec lequel vous êtes en relation, c'est le Théâtre de Gand.
Oui, c'est ça, c'est le Théâtre de Gand, un théâtre flamand. Théâtre avec quatre scènes assez classiques. Parce qu'à un certain moment, il y a quelques années, on s'est dit pourquoi pas prendre une institution, pourquoi pas prendre un théâtre et changer cette institution. On a écrit un manifeste et on a commencé tout de suite à réaliser ce manifeste. Et je dirais que aussi, Orestie à Mossoul, la pièce que vous avez vue, est une sorte de réalisation de ce manifeste, de ces idées qui sont dans le manifeste, d'avoir... Justement, vous l'avez très très bien décrit, des nouvelles relations qui ne sont pas prévues dans les institutions normales, entre les professionnels et non professionnels, entre les continents, entre les différentes cultures, entre des textes classiques et des zones de conflit sans infrastructure. Alors de créer des nouveaux liens à travers le théâtre.
D'essayer en tout cas, parce que moi c'est ça qui me semble assez intéressant avec Orestie à Mossoul, c'est que j'espère que vous n'êtes jamais exactement sûr d'y arriver. J'espère, Milorao, que en fait, vous les testez, ces relations-là. Et j'ai l'impression même que vous les testez presque devant nous. Genre, je suis pas dupe, il y a plein de choses qui sont préparées, énormément préparées, mais vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous essayiez.
Oui, je crois une pièce de théâtre, c'est une ouverture. À moi, évidemment, ça m'intéresse la première. Cette pièce est en train de tourner depuis mars, qu'on a fait la première à Mossoul. Et on savait déjà, par exemple, qu'il y a une impossibilité que les Irakiens de Mossoul nous accompagnent. Alors, on a filmé cette première. On a commencé à faire une nouvelle pièce pour l'Europe qui, en tournée, change encore une fois. Alors, pour moi, c'est pas la première qui campe, c'est chaque ville peut-être, ou chaque moment est une autre petite première. C'est vraiment le processus de production qui importe. J'essaye sur scène, dans pas dans toutes mes pièces, mais dans beaucoup de pièces, de montrer ce qui se passe pendant qu'on fait semblant de créer une pièce, en fait.
Puisque vous parlez de ce manifeste, on va en écouter un petit extrait. Il faut imaginer deux petites filles, quand même, qui sont filmées en plan séquence devant un décor précis. On les écoute un peu.
Manifest van Gent.
1. Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen. Het gaat erom die wereld te veranderen. Doel is niet om de realiteit voor te stellen, maar om de voorstelling zelf reëel te maken.
2. Theater is geen product. Het is een productieproces. Onderzoek, castings, repetities en de debatten die daarmee gepaard gaan.
Le premier point de ce manifeste, il ne s'agit plus seulement de représenter le monde, il s'agit de le changer. Le but n'est pas de représenter le réel, mais bien de rendre la représentation réelle. Le deuxième point, le théâtre n'est pas un produit, c'est un processus de production. La recherche, les castings, les répétitions et les débats connexes doivent être accessibles au public. Juste avant qu'on commence cette émission, Milorao, vous m'avez demandé comment était fabriquée mon émission de radio, est-ce qu'elle était préparée par des esclaves ? En riant, alors on ne va pas dévoiler la réponse. Je laisse à chacun imaginer si j'ai des esclaves ou pas. Mais ça me semble hyper intéressant que vous interrogiez le processus de production pour cette émission de radio parce que ça dit votre attachement au processus de production pour ce que vous faites. Comment est-ce que vous y réfléchissez, Emile Orao?
Beaucoup, beaucoup. Il y a Peter Zadek, c'est un metteur en scène très, très important de l'Angleterre et de l'Allemagne. Il est mort il y a peut-être 10-15 ans. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais pour quelques productions son assistant. Et il m'a dit, tu sais, il y a une règle dans le théâtre. Tout ce qui se fait pendant la production sera visible sur scène, même si tu coupes tout. Même si tu montres tout rien, tu vas le voir. Tu vas le sentir, il y aura une certaine atmosphère. Et s'il y a eu des esclaves, des acteurs esclaves qui jouent des libertins sur scène, ça va se voir. Alors, il faut avoir une sorte de distribution de responsabilité, en fait, à tout le monde, à mon avis, inclus dans un procès comme la création d'une pièce. Alors, comme une authorship distribuée à tout le monde. Par exemple, ce que je fais toujours, c'est de faire tous les procès avec les acteurs. C'est pas que j'arrive à un certain moment avec un texte et eux, ils vont l'incorporer parce qu'il y a des professionnalités. J'essaie vraiment de les paniquer que dès le début. Par exemple, pour l'Oresti, on a commencé avec un workshop où on a lu toutes les différentes traductions de l'Oresti qui existent. C'est intéressant parce que c'est totalement pas clair qui est dit par le cœur, qui est dit par Agamemnon, etc. C'est vraiment toujours les traducteurs qui décident sur le niveau philologique de leur époque. Alors là, il y a en fait, on connaît pas la pièce. Hein, c'est une reconstruction. C'était déjà intéressant. J'ai fait ça avec les acteurs. Après, j'ai dit, OK, on va voyager à Mossoul. Et tout le monde avait peur. On a discuté, parce qu'il y a chaque jour plusieurs attentats dans la ville. Il y a les milices chiites, etc. Il y a encore 3000 combattants de l'État islamique dans la ville. Alors, c'est vraiment un peu dangereux. Mais on a discuté et puis tout le monde a décidé de venir. Et ce sont des décisions qui peuvent avoir des conséquences éthiques, mais physiques aussi. Et c'est pour ça que j'insiste que chacun qui est inclus dans mes projets est auteur de ce projet et il sait ce qu'il fait. À mon avis, il y a encore une autre règle, c'est quand tu sais ce que tu fais, le reste c'est technique. Mais l'important c'est de savoir, de connaître la motivation pourquoi tu le fais. Et c'est dans tous mes projets comme ça. Je crois l'idée d'avoir des esclaves qui exécutent des idées que moi j'ai eues, c'est pas intéressant comme pièce de théâtre. Je sais pas, ça peut être intéressant dans d'autres contextes, mais dans le théâtre, c'est la mort de la logique de la performance.
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a tant de soins apportés au générique? Moi, j'ai été très sensible à la rythmique avec laquelle un générique, qui est généralement le moment où on va citer toutes ces personnes, on va les remercier, mais ça arrive à la fin et puis plus personne ne regarde, au cinéma en tout cas. Là, ce sont des actes théâtraux à part entière, les moments où ces génériques apparaissent, Milorao.
Oui, c'est une idée que j'ai maintenant dans une dizaine de pièces peut-être, les génériques pour des différentes raisons, parce que ça fait penser à un film. Et en même temps, évidemment, c'est de voir, et c'est toujours impressionnant, je me rappelle quand j'ai vu ça la première fois consciemment dans un film, j'étais impressionné de voir
le nombre
combien
de personnes
sont incluses dans une production.
Pour fabriquer ce truc.
Parce que tu vois quelques personnes sur l'image, et après tu sais qu'il y a un metteur en scène, peut-être quelqu'un qui l'a écrit, mais c'est là que ça se limite. Et après tu comprends combien de personnes on a besoin. Maintenant, par exemple, je suis en train de tourner un film sur Jésus, le nouveau Vangelo, le nouveau évangile, en Italie, avec des acteurs de Pasolini, de Mel Gibson, parce qu'il en fait des films intéressants sur l'évangile eux aussi, et avec des non-professionnels. Alors on est sur le set, on est tout le temps avec 50 personnes, 100 personnes, et c'est incroyable. Et s'il y a seulement un qui ne fait pas son travail, la chose s'arrête tout de suite. Et alors je crois que cette idée d'un travail collectif, qui est juste la réalité du théâtre et du film, n'est pas assez pensé. Ou l'institutionnalisation de cette collectivité qui est le théâtre de ville, surtout en Allemagne et en Flandre, n'a jamais été réfléchie. N'a jamais été étrangement démocratisée. Alors je dirais même que la production du théâtre est la moins démocratisée de beaucoup, beaucoup d'endroits. Peut-être l'armée est encore un peu moins démocratique, mais après, c'est le théâtre. Je me rappelle juste une anecdote. Une fois, il y a une dizaine d'années, à Berlin, on a fait une pièce dans un théâtre où je travaille quelquefois, et il y avait besoin d'un chœur de gens retraités. Après, on a invité des parents, c'était pas moi le metteur en scène, c'était un autre, un peu plus vieux, des parents que je connaissais, qui étaient retraités ou qui avaient perdu leur travail, et ils devaient être le chœur. Et dans le théâtre, ça marche comme ça, tu arrives, on te crie dans le visage tout le temps, on te traite comme un idiot, et tu dois travailler, si tu fais la moindre faute, on te crie dans le visage, encore une fois, c'est le théâtre allemand, plus ou moins. Et eux, ils l'ont dit, ils ont travaillé chez Revox, alors les machines...
enregistreur, justement.
Oui, pour enregistrer. Il avait avant travaillé à Revox. Il avait dit, si un manager à Revox aurait fait ça une fois, il aurait été viré tout de suite. Mais dans le théâtre, c'est normal. Et alors, on commence à réfléchir un peu sur soi-même aussi, comment on se comporte, en fait.
C'est intéressant parce qu'une des premières idées fortes de ce manifeste, c'est précisément que le théâtre doit changer de monde. Alors peut-être que changer le monde, il ne le fait pas d'abord sur scène dans ce qu'il représente, mais d'abord dans la manière dont il se fabrique. À vous écouter, Miller Rao, le premier changement, c'est la production.
Oui, c'est la production. Maintenant qu'on fait le film sur Jésus, un autre exemple, il y a des apôtres. Et nos apôtres, évidemment, sont des activistes de différents camps de réfugiés, surtout des musulmans d'ailleurs. Des femmes, etc. Et ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas une maison, ils n'ont rien. Et évidemment, on dit, si on ne peut pas aider à nous, si vous n'avez pas une maison, des papiers, etc., vous n'êtes pas légalisé à la fin de ce projet, si on ne peut pas aider à nous, on ne peut pas aider aux autres. Alors je crois qu'on va donner, ou essayer en fait, de donner un exemple pour changer le monde, parce que je crois à l'inverse, d'être extrêmement dictatorial pour après établir la démocratie, ça ne va pas marcher. Et c'est pas tellement difficile, parce que c'est toujours hectique, mais en même temps, c'est pas trop difficile non plus. Quand on a, par exemple, dit à Gand, écoutez, on vous aime tous, l'ensemble, par exemple, qui était composé de vieux stars blancs.
Parce qu'il faut savoir que donc, ça travaille avec des troupes, hein, qui sont, quand vous dites l'ensemble, vous parlez de quoi exactement?
C'est une troupe, oui. Ça, c'est une troupe d'acteurs, et le théâtre de Gand étant le plus grand de cette région, il y avait tous les stars du théâtre flamand qui étaient dans cette troupe, qui sont des vieux messieurs et des jeunes femmes, en fait, normalement. Alors on a dit, on vous aime beaucoup, on continue à travailler avec vous, mais on va vous virer tous, parce que c'est une contradiction. Si on ouvre l'ensemble, la troupe à tout le monde, alors c'est vous qui devez être viré, premièrement. Et on a dit, il n'y a aucun problème, mais on aimerait travailler dans ce projet, ce projet, ce projet. Alors c'est une prise de responsabilité aussi. D'ailleurs, ça c'est moi aussi, étant blanc, etc., je crois que tout ça doit venir au moment où moi je suis viré aussi au théâtre de Gand. Peut-être dans 5 ans où on dit, ok, on n'a plus besoin de ce type, on peut le faire maintenant sans lui.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la forme du manifeste? Parce que justement, vous êtes venu avec un petit prospectus. On a entendu là le manifeste de Gand lu par 2 enfants. La première chose que vous avez posée sur la table en arrivant dans le studio, c'est un autre manifeste, la révolte de la dignité. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous pensez qu'il y a une potentialité dans les listes qu'on fait, dans les choses qu'on écrit?
Moi, je crois être politique, c'est être explicite. Parce que le problème dans le théâtre et, je dirais, dans la scène intellectuelle de gauche, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on se fixe jamais sur quelque chose. Alors, chacun un peu une idée différente. Quand je suis arrivé à Gand, je me suis dit, on parle depuis une génération, depuis que je fais du théâtre, depuis 20 ans, on parle de changer les structures, d'être plus intégratif, d'ouvrir vers le monde, d'avoir un autre public, bla 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 bla. Mais on le fait pas. Peut-être il y a une petite scène secondaire où il y a des troupes comme ça, des non-professionnels. Alors je vais décrire explicitement ce que c'est d'une façon presque staliniste et après on va suivre. Mais avant on va se mettre d'accord. Et ça c'est un long procès pour le manifeste Gand, pour la révolte de la dignité, qu'on travaille avec une trentaine d'organisations. De se mettre d'accord, c'est presque impossible, mais on est arrivé. Alors de condenser les pensées qu'on a et après suivre. Je crois que c'est important.
En fait, ce qui vous intéresse, c'est aussi la négociation qui précède la condensation. C'est-à-dire que ce qui finit par être écrit est la traduction d'un long processus de conflits, de discussions, d'échanges, de désaccords, d'une certaine manière.
On pourrait dire écrire un manifeste, c'est un peu le comme en petit, ce qu'on fait dans une grande production de film, si on le fait de même manière dans une production de théâtre, que c'est le produit d'un long processus de discussion. Quand on dit, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on va faire ce voyage-là, est-ce que ça c'est important ou c'est pas important, on doit dire ça explicitement ou pas, c'est compris, quelle est l'intelligence du public, etc. Alors on travaille beaucoup. Pour nous, c'est important aussi, dans la façon de travailler, là, je crois que c'est point numéro 2, que toutes les répétitions, toutes les phases de recherche, personne ne doit demander de venir à des répétitions. Alors, il y a toujours des gens qui assistent et qui donnent leur avis, que quelquefois, ils même interrompent en disant, mais comment vous décrivez l'histoire de Mossoul, c'est ridicule, c'était pas du tout comme ça, je sais pas, Saddam Hussein n'a pas fait ça, etc. On avait invité évidemment aussi des Irakiens qui savaient de quoi on parlait et qui nous donnait des idées. C'est un peu dur parce que c'est un conflit du matin au soir, mais alors on peut développer les choses aussi beaucoup plus vite que si on est seul et on est un peu enfermé avec ses propres clichés.
Ça confirme ce que je disais au départ, j'ai l'impression que c'est vraiment la question de la relation qui vous intéresse, mais on peut aussi prendre comme d'autres fils rouges de votre travail, bien sûr au reste à Mossoul, mais les travaux qui ont précédé, un rapport à la guerre, à la violence et à la mort. À ce propos, on écoute le réalisateur Samuel Fuller en 1984.
Elle a la meilleure prémisse, le meilleur sujet
in the history
dans l'histoire
of telling a story.
De la fiction, de raconter une histoire.
Because the star of war,
parce que la vedette de la guerre
is death.
Est la mort.
And since every son of a bitch doesn't know what the hell life is, let alone death.
Et si, comme personne ne sait ce que c'est la vie, même pas la mort.
It's ouais. The number one subject living with everybody.
Donc c'est le sujet numéro un qui vit en chacun de nous.
Even when you're asleep.
Même quand on dort.
Yeah. And that's why. I was on a newspaper and
il était journaliste.
I saw criminals.
Et il a vu beaucoup crime. De criminels, beaucoup de crimes.
I made pictures about gangsters.
Il a fait des films avant sur les gangsters,
criminals.
Des criminels.
To me, that's a good story.
Pour lui, ce sont de bonnes histoires.
Hein. That's in the same city. His, I like that word city. It's the same city as war.
C'est dans la même cité que la guerre.
But it's another street.
Mais une autre rue.
It has always to do with a funeral.
Mais il y a toujours une idée de funérailles.
Est-ce que vous diriez, comme Samuel Fuller, que finalement la guerre, c'est la meilleure histoire à raconter parce qu'il y a la mort partout, Miller Howe, et que la mort, c'est la seule question avec laquelle on peut dealer, il dit, puisque de toute façon, il n'y a pas un seul fils de pute capable de comprendre ce que c'est que la vie, alors dans ces cas-là, on s'intéresse à la mort.
Oui, mais moi j'ajouterais qu'il y a quand même beaucoup de métamorphoses de la guerre. Alors il peut y avoir une guerre dans une relation, il peut y avoir une guerre évidemment militaire, il peut y avoir des guerres sociales. Si on prend l'Italie du Sud et la façon dans laquelle sont traités les immigrants, comment ils sont exploités sur les grandes plantations, c'est pas une guerre au sens de Samuel Fuller, c'est plutôt une guerre au sens marxiste, une guerre économique. Ou Congo de l'Est, où je fais le tribunal sur le Congo, c'est une guerre économique aussi. Pendant que à Mossoul, c'est une guerre qui continue, une guerre civile. Alors où tu vois même pas voir qui sont vraiment les antagonistes, etc. C'est très très difficile à comprendre. Ce qu'il décrit, c'est une guerre très très claire, où il y a des criminels, il y a des armes et tout. Et je dois dire que ça m'intéresse un peu moins. Déjà, quand je fais dans l'Évangile les scènes des grandes masses qui doivent mouver avec 200, 300 personnes dans des costumes, je m'ennuie un peu parce que c'est la technique. Alors, et c'est faire un film sur la guerre, je trouve d'ailleurs ces films pas très bien, je dois avouer. Même, je veux dire, c'est une autre époque aussi. On l'entend déjà dans sa voix, comment il parle. Alors, c'est un caractère intéressant. Après, par rapport au théâtre, je crois qu'on est un peu condamné à la guerre ou au trauma, parce que le tragique, c'est toujours post-traumatique, c'est-à-dire les tragédies, un détail historique que j'ai appris seulement il y a quelques semaines. Les tragédies ont toujours été montées à Athènes, quand la saison de la guerre était finie et les jeunes hommes revenaient, ceux qui avaient survécu. Et puis, il allait au théâtre, et ça s'explique pourquoi dans le théâtre, on parle tellement de la guerre, dans le théâtre grec. Et on parle de la crime de masse. On parle, c'est par exemple Agamemnon, il revient, et la première chose qu'il fait, il rencontre sa femme pour la première fois, et il lui raconte qu'il a violé des femmes, qu'il a détruit Troie, qu'il a écrasé les têtes de Troyens. Et on dit, mais ça, c'est vraiment pas la première chose que tu dirais à ta femme quand tu la vois après 10 ans. Mais parce que c'est un rituel post-traumatique de se laver des crimes, en fait. Et je crois que c'est de là que vient ce besoin, on dirait masculin, de parler de la mort, du crime, etc., d'une façon pornographique dans les films, dans le théâtre, dans la tragédie surtout.
Et vous y croyez, vous, au théâtre, comme un endroit pour se laver des crimes?
D'une certaine façon, oui. C'est triste, parce que le théâtre grec, on doit dire, c'est un théâtre de ceux qui ont vaincu. Moi, je suis plutôt du côté du théâtre de ceux qui ont été vaincus. Alors, je m'intéresse plus à laver la l'âme de Cassandre que laver la l'âme d'Agamemnon, en fait. Ce qui est étrange, en fait, dans le théâtre grec, parce que tu sens qu'ils comprennent bien que c'est pas bien ce qu'ils écrivent, que leur civilisation est en fait merdique. Ils sont très, très heureux, mais ils savent aussi que c'est extrêmement brutal et que Athènes, la beauté d'Athènes, la richesse d'Athènes est battue sur la destruction complète du Moyen-Orient. Alors c'est une chose qui est, pour moi, très intéressant de voir, on dirait, l'esprit criminel se développer dans ce, par exemple, dans la trilogie d'Eschyle. Comme ils veulent, ils disent, ok, on fait des violences depuis des générations, mais on veut arrêter. Et on voit comme Eschyle, il est tellement heureux d'arrêter la tragédie dans la tragédie même, de dire c'est fini, dans une troisième partie qui est très très mauvaisement écrite, très mal écrit. En fait, vraiment, c'est une construction, un peu un brain fuck qui marche pas du tout sur scène. Même à Mossoul, c'était impossible de le mettre en scène. Mais parce qu'il y a vraiment le besoin de finir avec tout ça, de se libérer de cette violence.
Mais enfin, on va pas dévoiler complètement la fin de votre mise en scène, Miller Rao, mais vous semblez faire l'hypothèse que ça n'est que passager, que la libération de la souffrance, en tout cas, elle est éventuellement une anesthésie de quelques minutes ou de quelques heures, et qu'on y revient.
Oui, totalement. Mais je crois ça, je crois, mais c'est plutôt un point de vue de la philosophie d'histoire, en fait, de voir que si on regarde dans l'histoire, évidemment, il y a des moments civilisés, il y a des empires qui peuvent extrapoler la violence ailleurs, comme on fait en Europe. On a les problèmes économiques, etc., on est au Moyen-Orient, en Afrique, mais pas chez nous, où on essaye, hein. Ça marche plus vraiment maintenant, mais pendant 2-3 générations, de la génération de mes parents, c'était la paix économique, la paix.
Déterritorialiser cette violence.
Voilà. Ou externaliser, peut-être, on pourrait dire aussi. Mais normalement, ça ne marche pas. Et je crois que la tragédie, c'est en fait la forme qui raconte comment la violence revient toujours et comment l'acte d'extra... Dites le mot encore une fois.
Alors, ou bien déterritorialiser, ou bien... externaliser, mais ça, externaliser, c'est intéressant parce que c'est un terme d'entreprise.
Voilà. Alors, d'externaliser, ça marche pas. Ça marche pas. Oedipe, il tue un homme quand il le rencontre. Il comprend pas, mais plus tard, il va comprendre que c'est son père, que c'était décédé depuis longtemps et tout. Et c'est impossible d'échapper à ce destin de mort, de violence, d'être homme seulement et pas Dieu. Et je crois que c'est ce qui intéresse dans la tragédie. Parce qu'il y a quand même une autre genre, le genre de notre temps, c'est le drame, ou peut-être même le mélodrame, qui travaille avec des solutions. Par exemple, il y a des problèmes chez Ibsen, il y a des problèmes conjugaux, alors un peu plus d'hygiène, un peu plus de droits de femme, et tout est bien. Mais chez Agamemnon, ça ne serait jamais bien. Ça va toujours continuer, soit que Athéna arrive et elle dit c'est fini. Mais les hommes ne peuvent pas finir avec la violence.
Il y a quelque chose qui se passe aussi dans votre manière de regarder cette violence-là, de regarder la guerre, et de regarder comme des impermanences de civilisation, comme des moments suspendus où c'est possible, pas d'en finir complètement avec la violence, mais éventuellement d'arrêter. Il m'a semblé que dans Mossoul, et dans les guerres décrites par Eschyle, vous cherchiez là où ça vit. que la guerre n'est pas un endroit où on arrête de vivre, n'est pas un endroit où on arrête de jouer de la musique dans les caves, quitte à se faire tirer dans la nuque. N'est pas un endroit où on arrête éventuellement de s'embrasser, de faire l'amour, de tomber amoureux, voire même de faire des enfants. Comme si, conscient de la permanence et de la continuité de la violence, vous n'en demeuriez pas conscient qu'il y a aussi de la vie des hommes dedans.
En fait, c'est ce qu'on appelle en italien la vita bassa, la basse vie qui continue. Et il y a l'histoire au-dessus qui continue aussi, mais ce n'est pas toujours lié. Comme marxiste, je devrais dire tout est lié qu'on fait à l'histoire, etc. Ou, je ne sais pas, à la production des richesses, mais c'est pas comme ça. Tu peux vivre sous l'État islamique et continuer une vie comme quelqu'un qui cache-cache fume, qui s'embrasse, qui joue même de la musique, qui prend des photos, même sous peine de mort. Alors c'était pour moi une grande leçon d'engagement, ce que ça veut dire l'acte artistique, même fumer, ou jouer loot, ou prendre
leçon auprès des personnes que vous avez rencontrées à Mossoul.
Oui, c'est ça, de rencontrer ces gens-là qui ont survécu l'État islamique, mais pas seulement survécu, parce qu'ils ont coopéré, mais ils n'ont pas coopéré, et en même temps, ils ont continué à vivre une vie civilisée. Alors c'est très impressionnant, et on trouve des femmes, on trouve des hommes, on trouve des vieux, on trouve des jeunes qui ont fait ça. Dans une normalité absolue, c'était pas eux qui ont décidé, étant des héros, qu'ils vont faire comme ça. Ils avaient besoin de l'art. Et on voit que ce besoin est plus fort que la peur, en fait. C'est comme l'amour, c'est l'art, l'amour, etc., sans entrer un peu dans le kitsch, mais c'était vraiment un besoin. Et ils se sentaient pas bien s'ils le faisaient pas, alors ils le faisaient.
C'est quand même impressionnant parce que, en effet, ces moments où apparaissent un photographe qui va dire qu'il a travaillé avec des longues focales parce que c'était plus possible, c'était interdit, sous peine de mort, de photographier pendant ce moment-là. En effet, ça donne une dimension à ce que c'est que de faire de la musique, que de faire du théâtre, que de faire de la photographie. On n'y peut rien, ça donne une autre dimension que certaines situations beaucoup plus confortables dans des endroits qui ne sont pas en guerre et où l'homme ne joue pas sa survie. Vous y apprenez quoi, vous, Milorao? Vous apprenez quoi auprès de personnes dont le risque est total dans l'acte de créer?
On apprend deux choses. On apprend quelque chose sur l'art, alors que c'est aussi quelque chose que j'essaie, c'est peut-être même un petit... Une petite chose dont je ne devrais pas parler, mais évidemment, j'essaie toujours de créer des situations extrêmement difficiles dans lesquelles produire. On n'a pas assez d'argent, on est entouré d'une guerre.
Consciemment, vous essayez ?
Oui, et pour des raisons, pour l'autre, parce que je crois, si on prend tous les outils normaux aux gens pendant une certaine étape de la production, parce que à la fin, on a besoin d'instruments, par exemple, pour jouer, on va trouver d'autres moyens. On va vraiment activer toutes les possibilités qu'on a comme artiste ou comme personne, qui sont de différents niveaux. Par exemple, quand on est allé à Mossoul, j'ai dit à des acteurs, parce que les acteurs-là n'étaient pas entraînés dans la récitation, pas entraînés dans le jeu Stanislavski psychologique, alors j'ai dit, donnez des workshops. Et peut-être ils n'avaient pas fait ça encore, alors ils leur donnaient des workshops, ils ont réfléchi comment je fais, etc. Alors c'était un peu hystérisant.
Vous disiez ça à vos propres comédiens?
Oui, je dis parce que je suis mes metteurs en scène, mais ça ne veut pas dire que je dois faire la mise en scène. Et après, il y a une autre chose que j'ai appris sur moi-même. Par exemple, quand on est sur tournage, et chaque moment, normalement, quand on tourne beaucoup, au moment où la lumière décroît, alors vers 6h, 7h, en Italie du Sud, parce que c'est une heure avant qu'ici, alors chaque minute compte et c'est totalement hystérisant. On est là avec 50%, on peut faire le mouvement une seule fois et après le soleil est parti et on va perdre 5000 euros ou je ne sais pas. Alors c'est vraiment... Et moi j'adore des situations comme ça où ça compte vraiment et tout le monde sait ça compte vraiment. Parce que c'est... Je ne sais pas, ça ne doit pas être la peine de mort, ça ne doit pas être une guerre à la Samuel Fuller, ça peut être quelque chose de plus simple, de plus humain, de plus... Oui, banal.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily. Going nowhere, going are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Cette chanson-là, Milo Rao, Mad World, qu'on entend, elle apparaît dans Oreste à Mossoul, que vous présentez en ce moment au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et ensuite, elle devient autre chose. Elle devient comme une sorte d'obsession. Elle devient comme quelque chose qui presque parfois gêne la parole, empoisonne tout ce qui est dit. Et là, je sais pas comment dire, à un moment donné, je me suis dit, mais ça devient une odeur, ce truc. Qu'est-ce que ça représente, Mad World, dans votre mise en scène, parce que vous restez quand même un peu metteur en scène, Milo.
Oui. En fait, il y a des raisons biographiques et des raisons du projet. Parce que c'était vraiment une des chansons proposées par les musiciens de Mossoul qui n'était pas totalement absurde. Parce qu'ils proposaient It's a Wonderful World, ils proposaient Imagine by John Lennon, que j'ai déjà utilisé dans Five Easy Pieces, mais qui n'en est pas de sens. Et après, je me suis dit, mais si eux, ils jouent Mad World, parce que tout est basé sur la version qu'eux, ils ont jouée. Après, il y a eu un compositeur qui a fait différentes versions pour, comme vous dites, très, très beau, empoisonner la pièce un peu partout. Ça me semble très, une belle métaphore qu'eux, ils jouent ça. Et en même temps, c'était un hasard parce que c'est une de mes chansons que j'aime vraiment le plus, qui me touche le plus. Moi, je l'ai connue assez tard, dans les années 90. Il y a un film indépendant qui s'appelle Donnie Darko. Et là, c'est dans ce film, c'est un peu la même chose. C'est un de mes films que j'aime le plus, où il y a cette chanson qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Elle dit quoi, cette chanson ?
En fait, c'est très simple. C'est une sorte de grande mélancolie parce que le monde est tellement fou. Alors, c'est pour mettre les choses comme ça. Et en même temps, comme beaucoup de bonnes chansons, c'est très très mystérieux qui est dit dans la chanson. Alors c'est comme une poésie, on ne comprend pas vraiment ce qui est dit. Comme dans les meilleurs songs de Bob Dylan par exemple, où tu ne sais pas vraiment de quoi il parle. Il fait semblant que c'est un simple folk song, mais après si tu lis ce qu'il dit vraiment, c'est comme Rimbaud, tu vois. Et c'est un peu la même chose ici, que j'ai trouvé c'est comme un texte d'Eschyle où tu ne comprends pas toujours ce
à quel niveau on nous
et à on quel niveau parle. on se trouve et pourquoi c'est dit et pourquoi parce que psychologiquement ça donne aucun sens et ça suit rien et je voulais avoir ça. D'ailleurs j'ai fait ça beaucoup de fois que j'ai demandé des compositeurs pour Empire, j'ai demandé
qui est une présente création.
Oui, c'est ça. Une compositrice qui a fait la musique pour Angelopoulos pendant 20 ans parce que j'ai toujours aimé la musique qu'elle a fait pour lui. Je lui ai demandé si elle peut faire une musique pour nous. Pour Dark Ages, j'ai demandé Laibach, qui est un groupe que j'adore aussi, très très différent. parce que c'était sur l'ex-Yougoslavie, ils sont de l'ex-Yougoslavie, de faire un soundtrack. Et ici, je me suis dit, ok, si eux, ils proposent ça, je vais l'utiliser, je vais demander à un compositeur.
D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que ces musiciens qu'on voit apparaître dans ce que je décrivais, c'est cette fenêtre qui est à la fois une fenêtre sur Mossoul, une fenêtre sur le passé, une fenêtre sur les liens qui sont possibles et impossibles entre Oreste et la guerre, entre Échille et maintenant. Quand vous leur demandez, en tout cas quand on voit qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils jouent, ces musiciens-là, qui sont devant l'Académie des Arts à Mossoul, bien sûr, il y a de la mélancolie, mais ils ont aussi un grand sourire. Ils ont aussi quelque chose que j'ai pas su exactement lire. Est-ce que c'est... Oui, quand il y a des Européens, on leur propose de jouer ça. Je sais pas comment dire. Il y avait une grande distance étrange dans l'interprétation de Mad World. Comment vous la lisez-vous, Milorao?
Il y a différents niveaux. Évidemment, il a une grande ironie. On est des très, très proches amis. On est devenus des très, très proches amis. Et nous, on a vu ce projet à la fin aussi comme une chose. Et jouer ça, parce qu'évidemment, c'est jouer... On a dit, OK, on va maintenant vous demander de faire Mad World, etc. Et après, ça fait du plaisir et ça se voit. Je crois que c'est toujours le plus important. Je dis ça même au celui qui interprète Jésus.
Dans le projet que vous faites en ce moment.
Oui. Quand tu rencontres les pharisiens, en fait, Jésus, comme une figure, n'existe pas. Ce que je veux voir, c'est le plaisir de jouer, le plaisir de se confronter de Jésus. Si tu ne vois pas ce plaisir, ça ne donne aucun sens. Ça peut être un plaisir négatif ou positif. De l'autre côté, je me rappelle quand je suis revenu de Mossoul, qui est une ville extrêmement chaleureuse dans le social, dans l'émotion de comment les gens se comportent, arrivant toujours t'inviter, tout le monde fume, mais quand ils te donnent le briquet, ils insistent que c'est ton briquet, tu vois. Ça, c'est juste un exemple. Quand je suis revenu en Allemagne, où il n'y a aucun rire, il n'y a rien, les gens ne se regardent pas, c'est vraiment différent. C'est une culture qui est extrêmement ouverte, et c'est ce qui me choquait encore plus, que c'est cette ville qui a été prise par ces islamistes qui sont émotionnellement, je ne sais pas, d'une idiotie extrême. Alors c'est eux qui souffrent sur ça. Si moi je vis à Cologne, si l'État islamique vient à Cologne, et je pense
que ce serait aussi très embêtant quand même.
C'est assez embêtant, mais meilleur match avec l'émotion de la population.
C'est pas rien de dire ça quand même, Milorao. Il y a quand même quelque chose aussi qui me semble important, c'est que il y a une façon de négocier la représentation de la violence dès le départ, avec une scène d'étranglement, et l'idée, là aussi, avec une ironie, une distance, c'est vraiment une éternité d'étrangler quelqu'un. Ça prend vraiment beaucoup de temps.
Ça prend du temps, oui.
Ça prend du temps. Et c'est une des premières scènes auxquelles on assiste, scène de théâtre, c'est un étranglement. Est-ce que vous sauriez me dire s'il y en a un tout petit peu d'ironie dans cette première scène-là, Milorao?
Ironie... Ça dépend un peu de comment on veut lire ce nom, mais en ironie, en termes de distanciation, évidemment, ça existe parce que c'est déjà reflété sur scène et puis sur vidéo, et c'est joué sur vidéo par les mêmes acteurs qui sont sur scène et des choses comme ça. Ce qui m'intéresse toujours dans le théâtre, c'est de faire arriver l'émotion et la réalité à travers la distanciation. Quand même, s'il y a la distanciation, l'émotion va arriver.
Par surprise, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on croit qu'en fait on est distant et en fait on va se laisser attraper vers quelque chose de très fort?
Oui, parce que être attrapé sans distanciation, ça donne aucun sens. Pour moi, un des réalisateurs les meilleurs, c'est le jeune Lars von Trier, où, quand il avait un peu mon âge et faisait ses grands films. Par exemple, tu vois dans Singer in the Darkness, je crois pas le titre, mais bon.
Dancer in the Dark.
Dancer in the Dark, c'est ça. Et c'est tellement absurde de donner à Catherine Deneuve, en fait. Catherine Deneuve, le travail, elle est la meilleure amie de Björk, et qu'eux, ils travaillent dans une entreprise. Parce que si quelqu'un ne va jamais travailler dans une entreprise, c'est Catherine Deneuve. Et après, il y a Björk qui joue aussi ce rôle qui est totalement improbable. Ça donne aucun sens. Il y a une distanciation extrême, mais à travers cette distanciation, le mélodrame fonctionne. Et l'émotion nous touche encore plus, comme si c'était plus universel. Alors j'aime beaucoup d'avoir cette distance pour pouvoir la conquérir un peu. Parce que si tu vas dès le début directement, je crois que ça marche pas. Hein. Surtout pas sur scène, parce que sur scène, tout est illusion, tout est présent. Tu vois tout ce qui est fait. Hein. Tu peux juste être humble vis-à-vis cet effet, je crois.
On écoute Michael Haneke.
Le film, naturellement, c'est une polémique contre la forme avec laquelle on traite la violence dans les médias. Parce qu'on les traite dans une manière consumable. Et je pense que c'est une position un peu douteuse. Contre ça, je polémise. Pour rendre compte au spectateur de son rôle qui joue dans ce jeu de consommation. Pour moi, c'était naturellement, j'étais obligé de réfléchir comment je trouve des moyens de montrer ça dans une manière différente qui évite l'obscénité de montrer la douleur, de montrer la violence. Je montre la douleur parce que dans le film d'action, normalement, la douleur n'existe pas. La position du spectateur est toujours à côté du tueur et très très rarement à côté de victime. C'est nécessaire pour la plupart des films d'action que le victime n'a pas un visage. Et moi, j'ai redonné aux victimes leur visage. Et ça, c'est pas très agréable de voir ça. Parce qu'en vérité, la violence, c'est toujours la souffrance des victimes. Seulement dans le cinéma, la violence, c'est le plaisir du tueur.
Tous les réalisateurs qui font des films violents, par exemple Oliver Stone, pour ne citer que lui, disent « je fais un film contre la violence ».
En ce cas, c'est un bon exemple parce que pour moi, ça c'est un film antifasciste avec des moyens fascistoïdes. Natural Born Killers.
Oui.
Parce que lui, il prétend de se battre contre la violence dans les médias et il fait ça avec une esthétique tellement attirante pour la violence que le film est du commencement raté. Ça ne peut pas fonctionner.
1998, Michael Haneke au moment de la sortie de son film Funny Games, puisqu'on était justement du côté du cinéma et avec vous, Miller Howe, et cette réflexion de montrer ou ne pas montrer et de l'artifice qui est tellement une sorte de d'état donné du théâtre en fait. On rentre dans la salle de théâtre et on sait, puis après on sait pas ce qui va se passer, ce qui va nous attraper. Lui il dit, je produis des films violents pour critiquer la consommation de la violence par les spectateurs et par les médias. Vous, vous diriez quoi dans cette économie-là, où la violence se montre tellement aujourd'hui, Miller Howe?
Oui, en fait, moi, je dirais la même chose comme Michel Haneke, même avec le même accent. c'est intéressant ce qu'il dit. Évidemment, je crois ce que Haneke... où il est peut-être pas, où il voit un peu différemment ce qu'il fait, parce que évidemment dans Funny Games, c'est un film fasciste d'une certaine façon. On comprend très bien, qu'est-ce qu'il a dit, le plaisir de tueur. C'est un film qui est très intéressant parce qu'il y a le plaisir de tueur d'un côté et le plaisir de lui de montrer toute cette violence qui est insupportable. S'il ne le montrait pas avec un plaisir fasciste, ce qu'il appelle fasciste, pour moi ce mot n'a aucun sens, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et de l'autre côté, il y a la douleur des victimes. Alors cette famille qui est prise dans les Funny Games, qui est tuée. Et c'est extrêmement touchant parce que tu les connais et tu comprends pas pourquoi ils n'échappent pas, pourquoi ils suivent le jeu, pourquoi ils pensent qu'ils vont échapper parce qu'ils ont des dizaines de possibilités de s'échapper. Alors c'est vraiment un mélodrame très très réussi. La mise en scène est parfaite. Et il y a toujours dans ce film, Michel Haneke pour moi a une très très grande influence. Alors je l'adore, mais il travaille beaucoup avec montrer la violence. Un peu
et le plaisir du bourreau. Il me semble que par exemple dans Reste à Mossoul, il n'y a pas le plaisir du bourreau.
Non, un peu moins, mais il y a le plaisir du spectateur. Parce que moi je suis d'une façon sadique à un certain moment de ma carrière, quand j'ai fait Civil Wars, c'est ce que Johan Lesn, qui est un peu mon alter ego dans plusieurs pièces, dit, j'ai eu ce hard drive et j'ai regardé pendant des heures et des heures et des heures et des heures des exécutions et ça devient vite une obsession. Comme la pornographie peut devenir une obsession, tout qu'on doit regarder toujours l'acte sexuel. Et la même chose avec l'acte de la violence. Tu vois comme des femmes sont étranglées, tu vois comme des jeunes hommes sont tués, tu vois leur dernier mouvement, tu vois des choses comme ça et tu commences à avoir comme une entrée dans une méthodologie de tuer. C'est intéressant, mais d'une façon que tu ne peux pas vraiment contrôler.
Parce qu'elle est du côté de la jouissance.
Oui, de la jouissance, mais aussi de quelque chose, on touche à quelque chose que... C'est ce que Samuel Fuller a dit, on ne peut pas comprendre la vie, mais la mort, on ne peut vraiment pas comprendre l'acte de mourir, de tuer. Et on a toujours l'impression, c'est intéressant ce que le cerveau fait, qu'avec chaque vidéo d'exécution, on va comprendre un peu plus sur la façon ce que ça veut dire mourir ou savoir qu'on meurt. Et non, comme, et c'est pour moi, c'est pour ça que je cite dans la pièce l'exemple du jeune homme qui est sur genoux, qui va être tiré dans la tête et qui essaye d'échapper à la balle en faisant comme s'il échappait à un chiffre, tu vois. Le corps n'a aucune conscience, connaissance de la mort. Comment? Alors, il ne peut pas réagir comme ça. On n'a pas cette expérience. Mais comme spectateur, on a l'impression d'avoir une expérience. Et comme Heidegger a dit, la seule expérience qui est vraiment intéressante à avoir, c'est l'expérience de la mort. Et quand je fais la Bible maintenant, le Nouveau Testament, c'est le seul texte saint, dans tout le texte saint, où il y a un Dieu qui s'incorpore pour connaître la mort. Parce que c'est la seule chose qu'un Dieu, même un Dieu, ne peut pas connaître. Alors il s'incorpore pour connaître la mort. Et ça, c'est vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant, cette question de la connaissance de la mort, de la violence, etc. Et c'est quelque chose où on n'arrivera jamais à la fin, je crois.
Et alors vous vous méfiez du regard pornographique ou vous en avez conscience, et vous faites avec?
Moi, je crois dans le sens de Haneke.
Même accent?
Avec le même accent. J'utilise beaucoup d'images qu'on pourrait appeler fascistes. C'était très drôle quand je travaillais maintenant avec Enrique Razzo, qui est un vieux marxiste qui a joué le Jésus chez Pasolini. Chez moi, joue John the Baptist, Jean le Baptiste. Dans les derniers jours, j'ai travaillé avec lui. Et pour lui, c'est un peu de la génération de Haneke. Il a 74 ans. Ils ont alors un peu le même âge. Et pour eux aussi, démontrer la violence de façon directe dans le visage, c'est fasciste. Parce que, évidemment, je sais pas, la jouissance de tuer, la beauté de tuer, de l'acte de tuer, etc., tout ça est du côté des fascistes. Aujourd'hui, on dirait de l'État islamique. Alors, ceux qui vraiment font une belle... Alors, ce que j'essaye de montrer ça, mais de redonner la réalité à l'esthétique fasciste en tant que, par exemple, un étranglement ne dure pas 10 secondes, mais dure 10 minutes. En tant que, par exemple, pour moi, la torture de Jésus, qui, dans Mel Gibson, est totalement fasciste, The Passion of the Christ consiste en 30 minutes je voulais redonner à cette chose que ça redevienne une métaphore d'une humanité torturée. Et quand tu vois,
par exemple, la temporalité.
Par la temporalité, mais là, plutôt par, vraiment tout simplement, par la couleur de la peau de Jésus. Quand tu vois un Camerounais qui est torturé, je fais ça devant le public, mais avec toutes les choses, mais Gibson, on a le même costumier, on a les mêmes gens qui travaillent pour moi, qui en travaillent pour lui, qui font les mêmes choses Hollywood. Mais chez moi, ça tourne totalement parce que c'est un noir. Et tu vois l'individu. Quand je vois un blanc avec une petite barbe jouer Jésus, je vois juste Jésus. Mais quand tu vois ça, tu vois moi, toi, tu vois l'individu et ça change tout.
Pourquoi?
Parce que, évidemment, c'est un mouvement ou un changement dans l'iconographie. Alors tu vas replacer quelque chose et tu vas tout de suite comprendre que c'est une personne. Parce qu'au moment, tu vois que quelque chose dans l'image ne fonctionne pas. Et quand tu vois la souffrance de cette personne qui ne fonctionne pas, ce n'est pas la souffrance du Christ, c'est la souffrance de cette personne qui, étrangement, se trouve à cette place-là. Et on comprend que tout le monde est à cette place.
Il y a une image pourtant que vous ne montrez pas. Encore une fois, on va essayer de ne pas trop dire, mais qui est une vidéo d'attentat qui arrive à un moment donné et qui finalement n'arrive pas à l'écran, celle-ci, Mlaro. Et elle est remplacée par une autre image. Là, qu'est-ce que vous faites en ne le montrant pas?
On avait... pas envie de montrer cette vidéo. Il y a eu, pendant qu'on était là, plusieurs accidents horribles, des attentats très proches. C'est entré toujours plus en ville, très proche de là où on a, et à la fin au front de là où on a répété. Et heureusement, personne de nous était vraiment inclus dans cet attentat. Mais la chose la plus dure, c'était évidemment quand la ferry, le bateau, s'est retourné. Ce sont des images vraiment presque sataniques. C'est insupportable de voir tous ces enfants, toutes ces femmes, 200 personnes mourir devant la porte de l'hôtel sans qu'on puisse rien faire. Et on ne voulait pas montrer ça pour des raisons... Il y avait des raisons éthiques parce qu'on connaissait quelques-uns qui sont morts ou qui étaient de la famille des acteurs dans l'attentat, mais aussi dans le bateau qui a coulé. Et en même temps, je crois que je ne sais pas si quelquefois ces images qu'on voit quand même beaucoup transportent encore ça. que quelqu'un, quand il voit les images, va comprendre ce qu'on va dire, ou il ne va pas comprendre. Il y a évidemment Claude Lanzmann qui a dit « Si je trouve une image de Auschwitz, je vais la détruire, parce que ça va seulement montrer une toute petite partie, et je ne veux pas montrer une partie, je veux montrer tout, ou je ne montre rien. » Et ça, c'est le problème de la souffrance aussi. Comment montrer, dans un cas individuel, c'est possible, mais quand ça devient collectif, c'est extrêmement difficile à trouver la traduction.
Même dans un cas individuel. Vous montrez aussi que dans un cas individuel, c'est très difficile de montrer la souffrance. Ça passe difficilement, et à l'image et au plateau. Même le corps souffrant d'un de vos comédiens, qu'est-ce qu'on en sait au final ? À quel point on a connaissance de la souffrance de cet homme-là? Elle oui. nous arrive par un tout petit bout.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que l'idée de l'esthétique, on dirait catholique, où on traverse à travers la destruction physique du corps de héros, de Jésus, ou de n'importe quel héros, la reprise, par exemple, a un peu la même logique. La destruction du corps d'Isan Sharfi nous mène ailleurs. Et je crois que et ça, c'est peut-être la dernière chose que je peux dire sur ce sujet. Et c'est pas la violence et la description de la violence qui compte, c'est la catharsis, c'est la question de vers où ça nous porte émotionnellement. Pour utiliser encore une fois la métaphore de laver l'âme dans le choc, dans l'ennui peut-être, parce que ça dure un peu trop. Mes filles, quelquefois, viennent regarder mes pièces et elles s'ennuient beaucoup. Peut-être il y a lapin, lavage d'âme, vraiment. Mais c'est important où on arrive. Jésus, sans transcendance, sans dire « Ok, je suis mort pour la cause », ça donnerait aucun sens, il serait juste un loser. Alors je crois que quand on montre la victime dans sa souffrance, quand on la regarde ou on assiste la victime dans sa souffrance, quelque chose se passe avec, je veux dire, comme un acte social. C'est pas qu'on comprend quelque chose, mais dans cette assistance, et ça c'est effectivement théâtral et très différent de tous les autres genres qui existent, cette assistance est au centre de cet art.
D'ailleurs, on ne comprend pas, et d'ailleurs, la question de la souffrance n'est pas réglée, parce que il n'y a pas de transcendance dans Oreste à Mossoul. Il n'y a pas de mieux après la souffrance.
C'est vrai.
Il n'y a aucune élévation. Enfin, je veux dire, le constat qui est fait, c'est qu'on est face à une ville détruite, elle est détruite. On est face à des vies qui sont parties, elles sont parties. On est face à une justice qui, des hommes qui restent très difficiles à régler. Il n'y a pas de mieux par les corps qui ont été meurtris et les villes qui ont été détruites.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment tragique. Hier, quand j'ai revu la pièce, je me suis rappelé du cas de cette femme qui, au tout début, est mariée d'un djihadiste, une jeune femme, 14 ans, qui est à l'école, puis un djihadiste arrive, il le marie, et après, on la retrouve dans un camp, et ça, c'est juste un exemple de centaines d'exemples. On l'a mis dans un camp comme femme d'un djihadiste. La famille ne veut plus la reprendre. Elle peut pas partir une relation avec ses propres enfants parce que c'est un viol. Et alors elle a envoyé ses enfants, elle veut plus les voir. Peut-être même dans l'espoir que si elle envoie ses enfants, la famille va la reprendre, mais la famille va jamais la reprendre. Alors ce sont vraiment des personnes perdues. Ce sont des âmes perdues. Ils sont dans l'enfer. Si un enfer existe, ils sont dans l'enfer. Et c'est voyant ça, et après proposer qu'il y a un petit tribunal organisé par moi qui va régler tout, ça c'est vraiment pas possible.
Mais ça veut dire que vous croyez assez peu à l'intervention d'Athéna pour revenir à Échille. Athéna qui arriverait et qui dirait « Ok, c'est fini maintenant la violence et la justice des hommes qui commencent ».
Oui, mais chez nous, déjà Athéna, c'est une femme qui a coopéré avec l'État islamique, comme elle raconte, pendant une demi-année, pour des bonnes raisons, pour sauver ses filles, etc., pour que ça ne se passe pas la même chose comme avec cette autre femme. Déjà, cette figure d'Athéna, et sur un autre niveau aussi, et Athéna, évidemment, c'est l'État, c'est la force démocratique, c'est une institution qui dit « Arrêtez, chers citoyens, c'est maintenant moi qui ai le monopole de violence. Vous arrêtez de vous entretuer. Moi, je vous tue peut-être quelquefois, mais c'est moi. » Et il y a ce monopole n'existe pas en Irak. Il n'y a pas un État où on peut faire confiance. Athéna n'existe pas. Ça, c'est la meilleure chose, c'est de trouver quelqu'un qui a coopéré avec l'État islamique, qui peut écouter. Mais c'est déjà un maximum.
Oreste à Mossoul, c'est le titre de cette pièce qui est donc jouée en ce moment et jusqu'au 14 septembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre, Millerao. Et bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, mais bon, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave.
Il y a plein de choses qu'on a dites.
On
par
continue
ailleurs.
Une autre fois.
Ouais. Ouais. Et puis peut-être vous dites un tout petit mot de Révolte de la Dignité, pas forcément du film que vous êtes en train de faire puisqu'on en a parlé, mais du projet un peu concret qui est en train de se passer en ce moment.
Oui, on a vite compris que transposer et apporter le message de Jésus, qui est un révolutionnaire social à son époque contre l'Empire roumain, aujourd'hui ne donne aucun sens sans une révolte qu'on pourrait comparer un peu. Et puis j'ai rencontré Ivan Sanier, qui joue Jésus, mais qui est aussi la tête de cette révolte, qui a lui fait une greffe il y a 11 ans sur une des grandes plantations où il y a le travail d'esclavage, mafia et tout, où ces immigrés, 500 000 quand même, autour de Matera, sont exploités, sans contrat, sans rien, pour 20 euros par jour. Et beaucoup d'eux meurent juste sur le camp. Déjà, il y a quelques jours, il y a nous un autre cas. Et lui, il m'a dit, j'ai fait une fois une greffe. Et j'ai dit, mais comment tu as fait? Il y a des Camerounais, il y a des Nigériens, il y a des Roumains, etc. Ils ne vont jamais coopérer parce que divide et impera, on ne laisse pas ces gens, ils sont de différents camps, etc. Il a dit, ce que j'ai fait, j'avais 12 sous-chefs. C'est-à-dire, j'avais de chaque communauté un sous-chef, comme Jésus avait 12 apôtres. Et j'ai dit, OK, on va faire la révolte encore une fois. Et on va chercher les 12 sous-chefs, ce qu'on avait fait. Et puis on a commencé une révolte, un mouvement populaire qui essaye d'associer toutes les associations, les ONG, les petits partis, etc., qui se battent pour les droits des travailleurs italiens, mais aussi immigrés.
On peut trouver ça en ligne ?
On peut trouver ça en ligne, www.revoltadeladignita. Et j'ai publié un tout petit texte dans Libération qui décrit ça dans 5 mots.
Merci beaucoup, Millerao. À la réalisation ce soir, c'était Marie-Laure Ciboulet et à la prise de son, Julien Calvas. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandet. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Dans un instant, 22h, c'est le journal. Très belle soirée sur France Culture. Bonsoir.